RCF.
Toutes sortes de jeunes gens viennent se former dans les universités européennes au Moyen-Âge, Antoine d'Estambert. En vue de quel type de profession, d'avenir, qu'est-ce qu'on fait finalement de ces études universitaires et peut-être du diplôme qu'on obtient à l'issue de cette formation ?
Cela dépend de la formation que l'on a suivie. Pour beaucoup d'étudiants, c'est d'abord la faculté des arts, donc le grade de maîtresse art, qui est le plus souvent recherché. Cela apporte une connaissance suffisante des lettres pour ensuite pouvoir prétendre éventuellement être recruté auprès d'administrations locales, comme Claire de Ville, par exemple, à un moment où ce 12e-13e siècle est aussi une révolution du droit, des institutions politiques s'appuyant sur le droit et qui ont besoin pour cela d'avoir des gens formés, des officiers formés. Et l'université, de ce point de vue-là, y pourvoit largement. Donc, pour une grande partie, ce sont d'abord des débouchés dans des administrations locales, parfois princières, ou encore, évidemment, des administrations royales. Quand on fait des études de droit, encore plus, puisque en devenant un spécialiste du droit, en étant juriste, on est largement sollicité par toutes ces institutions qui construisent leur pouvoir à partir du droit.
Surtout si on est passé par Bologne.
Si on est passé par Bologne, mais également si on reste dans l'espace du Royaume de France, il y a le droit canon qui est enseigné à Paris, et puis le droit civil à Orléans, et être passé par les deux assure, en général, une carrière dans les administrations assez ouverte. Et puis, quand on a fait des études de médecine, avec le droit aussi d'ailleurs, ce sont des études qui permettent de devenir praticien. Donc, on peut pratiquer la médecine. De même que le droit, on peut devenir avocat, devenir procureur. Et là, on a un débouché qui est un débouché pratique. Dans le cadre de ce qui est la discipline la plus prestigieuse, qui est la théologie, là, on forme essentiellement les élites de l'Église. C'est également le cas pour le droit canon. Et l'Église est évidemment l'un des débouchés essentiels de ces étudiants. Et puis l'université elle-même. Parce que quand on prétend devenir maître, c'est d'abord pour enseigner ensuite à l'université. Donc l'université produit ses propres élites, se reproduit en formant ses propres maîtres. Mais ce n'est pas le seul débouché. À partir du moment où on a acquis un savoir suffisant en lettres, on a des débouchés assez faciles dans l'ensemble des administrations ecclésiastiques ou laïques.
Très concrètement, on dispose d'un document avec un sceau peut-être ou une attestation qui prouve qu'on est diplômé d'une université ?
Alors à Bologne, on a des traces effectivement de documents dès le XIIIe siècle, que l'on pourrait appeler donc un diplôme, mais au sens diplomatique du terme. À Paris, on n'en a pas, on voit apparaître à partir du milieu du XIVe siècle, ce que l'on appelle des lettres de grade, qui sont effectivement des lettres signées par les maîtres et qui viennent attester du fait que leur étudiant a bien obtenu un tel grade à l'université. On n'est pas encore dans une société où il faut produire des documents comme ça, et le simple fait de se présenter comme maître, le témoignage en général suffit. Mais c'est bien de façon plus générale, au tournant du milieu du XIVe siècle, que l'on voit se généraliser ces lettres de grade, de ce qu'on appellera ensuite les diplômes, qui viennent attester, en dehors du monde académique, des capacités que l'on a acquises au sein de l'université et qui assurent de fait de pouvoir avoir un débouché.
Antoine d'Estambert, dans quelle mesure l'université médiévale permet-elle une forme d'ascension sociale, de promotion sociale ?
Alors ça, c'est, je dirais, ce qui constitue la vraie révolution sociale de l'université et globalement du système scolaire tel qu'il se met en place au XIIe et XIIIe siècle. La société médiévale est une société qui ne connaît pas de fluidité sociale particulièrement importante, et sa capacité à s'élever dans l'échelle sociale tient essentiellement, alors, soit d'être bien né, mais pour s'élever, c'est souvent le service d'un autre. L'université et les écoles apportent un autre système que l'on pourrait qualifier de méritocratique, c'est-à-dire cette capacité, par l'accumulation de mérites individuels, intellectuels, de gravir les échelons de la hiérarchie sociale et atteindre des fonctions qui n'auraient pas pu être envisagées au début de la vie du jeune étudiant. On voit très clairement une colonisation des élites intellectuelles passées par les universités de l'ensemble des grandes administrations ecclésiastiques et administrations laïques. Si l'on se place au XIIIe siècle encore, quand on regarde les populations des chapitres cathédraux, notamment des chanoines, on a en général moins d'un quart qui porte le titre de maître parmi ces chanoines, qui donc assurent qu'ils sont passés par les écoles. Si on se place au XVe siècle, ce sont près de 80% de ces chanoines qui ont le titre de maître. Donc on voit progressivement ces institutions ecclésiastiques colonisées par ces gradués d'université. Au point que, et ça c'est grâce aussi au soutien de la papauté, au point que la détention d'un grade universitaire devient même un critère essentiel de recrutement pour l'Église. À partir de 1378, c'est une initiative du pape Clément VII, on ne peut pas prétendre obtenir une prébende, c'est-à-dire une charge de chanoine, dans un chapitre, si l'on n'est pas au moins détenteur d'un grade de maîtressard de l'université.
Ça veut dire qu'il y a une exigence qui s'installe, et qu'on peut même imaginer que le niveau intellectuel s'améliore.
Oui, c'est en tout cas la volonté de l'Église. Les universités sont aussi apparues dans un contexte où il y avait de la contestation ecclésiologique, voire théologique de l'Église. Il ne faut pas oublier qu'en 1215, quand apparaissent donc ces grandes universités, c'est le 4e concile de Latran, c'est le moment où l'Église lutte contre ce qu'elle nomme les hérésies, et donc il y a un enjeu à former des clercs qui soient intellectuellement bien formés pour pouvoir lutter avec les armes de la doctrine contre ceux qui la contestent.
C'est-à-dire que là, il y a une espèce de centralisation du savoir, et que l'Église a aussi la capacité, la possibilité là de la régenter un peu ?
Oui, centralisation et même, je pourrais dire, monopole. Il y a véritablement une tentative de construction d'un monopole du savoir par l'Église, absolument.
Donc on ne peut pas enseigner n'importe quoi ?
On ne peut pas enseigner n'importe quoi. D'ailleurs, le contenu des enseignements est tout à fait établi, vérifié. Il existe des programmes qui sont dans les statuts. Et quand les institutions universitaires ou l'Église ont vent d'enseignements qui dévient de la droite doctrine, eh bien, on n'hésite pas à rappeler les maîtres à l'ordre, voire à condamner leurs propos. C'est le cas notamment des célèbres condamnations parisiennes de 1270-1277, où un certain nombre de maîtres avaient enseigné des théories aristotéliciennes que l'on dit averroïstes, parce que reçues par le truchement donc de ce philosophe musulman qui est Averroès, qui contestait un certain nombre de points absolument fondamentaux de la philosophie naturelle et pas compatible avec la foi chrétienne. Donc il y a une surveillance aussi de ce que l'on peut enseigner dans ces universités.
Mais il y a aussi donc, vous l'avez dit, une possibilité d'accéder à un savoir, à des connaissances, à une formation, en théorie, quel que soit le milieu dont on est issu.
Oui.
Ceci dit, une immense partie de la population n'ira jamais dans les universités.
Non, c'est une petite fraction. Alors là encore, c'est pas toujours facile d'obtenir des chiffres fiables, mais si l'on se place, disons, pour comparer au début du XIVe siècle, on peut estimer que l'université d'Oxford a pu atteindre quelques 1000 étudiants, l'université de Bologne un peu plus, 1500, 2000 peut-être.
Sur une année.
Et c'est l'effectif à un moment donné, oui, sur une année. Et puis la plus importante, c'est effectivement l'université de Paris, où on a estimé qu'il pouvait atteindre 4 à 5 000 étudiants et maîtres au total. Dans une ville comme Bologne ou dans une ville comme Paris, c'est néanmoins une population qui est numériquement importante. Parce que même si on ne reste pas toute sa vie à l'université, quand on a prêté serment à l'université au moment où on y entre, en théorie, on reste lié à elle toute sa vie. Et donc, on participe d'une certaine façon à la continuité de l'université, même si on entame une vie professionnelle ensuite ailleurs.
Qui en éloigne. Mais qu'est-ce que c'est que ce serment ?
On prête serment, alors c'est le cas notamment pour l'Université de Paris, l'obligation de prêter serment au moment où on passe le premier grade universitaire. On prête serment, c'est le principe même de l'universitas, c'est une communauté jurée. Donc on prête serment à l'ensemble de l'université et c'est un serment qui est perpétuel, c'est-à-dire qu'on ne peut théoriquement plus...
On fait partie de cette université.
On fait partie de cette université, voilà. Ce qui pose d'ailleurs parfois problème. On a des cas au XIVe siècle où des avocats qui viennent plaider au Parlement de Paris contre l'université, au moment on commence le procès, le premier geste de l'université, c'est de dire que l'avocat est parjure parce qu'il a, en son temps, quand il a fait ses études de droit, prêté serment à l'université, et là, il plaide contre l'université. Et on voit des avocats qui sont obligés de se faire relever de leur serment par la papauté pour pouvoir plaider contre l'université. Donc, on est lié à l'université toute sa vie, normalement. Ce qui fait que si seuls 4 ou 5 000 étudiants au XIVe siècle fréquentaient à ce moment-là l'université, on peut considérer qu'à Paris, qui est une ville qui concentre une population cléricale importante, il y avait beaucoup plus de monde qui était passé par l'université. Ainsi, vers 1394, on sait qu'il y a eu une consultation pour résoudre le grand schisme à ce moment-là, qui était ouverte par l'université. Et les récits de cette consultation nous expliquent que chaque personne liée à l'université pouvait venir voter. Et d'après le religieux de Saint-Denis, ce sont quelques 10 000 suffrages qui ont été recensés dans la ville de Paris à un moment où elle ne comptait plus, cette ville de Paris, qu'un peu plus de moins de 200 000 habitants. C'est-à-dire qu'on atteint là quelque chose, une population qui, selon les moments, pouvait atteindre au mieux 10% de la population parisienne, ce qui est tout à fait considérable. D'autant que c'est une population qui constitue l'élite de la population parisienne.
À demain pour conclure. Merci Antoine d'Estambert.